Écoutez les spectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Les
réseaux sociaux. Il est très cher. C'est très important. Ouais,
il est 9h40, l'instant M, l'émission où les invités parlent assis et pas allongés.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Quoi bon une troisième saison du Divan ? À force de voir des personnalités populaires se faire psychanalyser face à un écran qui les renvoie à l'image d'eux-mêmes, certes, mais un écran quand même, on a compris que cette émission raconte surtout une chose, les effets de la médiatisation. Et que son présentateur, à force de faire dire à ses invités combien ils sont anxieux, pudiques, illégitimes, en lutte avec leur corps et leur image, parle en réalité d'une chose, de lui-même, en tout cas aussi de lui-même. Bonjour Marc-Olivier Fogiel.
Vous voyez ça comme ça, vous Sonia. Bonjour, bonjour.
Bah oui, bonjour.
Bonjour, j'allais dire bonsoir, j'allais dire bonsoir, voyez, bonjour Sonia.
Alors non, il ne dit pas bonsoir, il s'est échappé d'RTL en pleine conférence de rédaction RTL où il officie à 18h et où il dit bonsoir tous les jours. Le Divan, en revanche, le retour, France 3, 23h15, ce sera bonsoir aussi. Mm-hmm. D'abord, l'actu média et l'après-coup de Bruno Denet. Salut Bruno.
Bonsoir Sonia.
L'homme qui a vu, vu. Soyez tous les bienvenus. Hashtag Instant M.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Presse écrite d'abord, si vous ajoutez les lecteurs papier à ceux qui lisent les journaux sur tablette, smartphone et ordinateur, Le Figaro est devenu le premier journal de France. Plus de 21 millions de lecteurs devant le gratuit 20 minutes, Le Monde qui recule à la troisième place, 20 millions de fidèles. Et Le Parisien aujourd'hui en France, dont les ventes en kiosque s'effritent dangereusement, mais qui se rattrape sur écran. Il n'y a guère que L'Équipe qui a carrément dopé ses ventes sur papier, avec sa nouvelle formule, L'Équipe qui est devenue toute petite, mais qui rate le virage du téléphone portable, hein, comme quoi, les habitudes, L'Équipe au petit-déj.
Bienvenue à Bibliothèque Médicis, bienvenue à tous.
Le feuilleton El Kabbach continue. Acte 1, l'intervieweur politique devient conseiller de Vincent Bolloré, mais demeure celui d'Arnaud Lagardère, deux patrons médias frontalement concurrents. Acte 2, les syndicats chez Lagardère se demandent si celui-ci ne va pas céder ses médias, comme Europe 1 par exemple, à Bolloré, propriétaire de Canal+. Acte 3, Public Sénat se demande si Jean-Pierre El Kabbach a vocation à rester en plus le visage phare d'une chaîne publique. Marc-Olivier Fogiel,
oui.
Où vous voyez-vous, vous, à 79 ans?
Pas dans les médias, mais en même temps, j'ai travaillé avec Jean-Pierre El Kabbach pendant 3 ans à Europe 1 et j'étais vraiment réellement impressionné par sa faculté à minuit à changer ses invités. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il a cette niaque-là. Donc, moi, je ne m'imagine pas comme lui à ce moment-là. J'espère faire autre chose. Mais je suis assez respectueux, même si, évidemment, Jean-Pierre El Kabbach a aussi des défauts, mais de ces qualités-là et qui sont intactes. Et j'étais assez impressionné.
Et de sa niaque et de ses défauts, pour vous, ça vous paraît être la bonne personne pour rebâtir la chaîne d'infos du groupe Canal? C'est ça.
Ça dépend ce que sera la nouvelle chaîne d'infos du groupe Canal.
Ce qu'il voudra en faire.
En tout cas, il a cet esprit de revanche. Hein, et cet esprit de revanche, on peut en faire quelque chose de positif aussi. Donc, je ne pense pas que ça soit le plus nul de tous pour aller essayer de rebâtir un modèle là-bas, un modèle différent. Si c'est pour refaire du news comme était et plutôt bien iTélé d'ailleurs, dans les pas de BFM, je ne pense pas que ça soit forcément le meilleur profil. En revanche, si c'est pour imaginer autre chose, il n'est pas illégitime pour le faire.
Voilà, et vous voyez un rapprochement, vous, entre ces deux groupes, Europe 1, passé dans l'escarcelle Bolloré?
Bon, en tout cas, quand je travaillais à Europe 1 et qu'Arnaud Lagardère était là, il disait bien, il affirmait que c'était pas à vendre, qu'il avait hérité ça de son père, que c'était une marque très forte pour lui dans son cœur et que ça dépassait le cadre de l'économie, même s'il y avait une raison économique éventuelle de céder, de rapprocher des groupes autrement, mais que pour lui, il était trop attaché à Europe 1 pour le vendre. Je souhaite que ça soit toujours le cas.
C'est pas un signal, donc, cette double casquette d'El Kabbach.
Je ne suis pas sûr. Je pense plutôt que c'est un attachement d'Arnaud Lagardère à Jean-Pierre El Kabbach, puisque de ce que j'ai compris de l'histoire, c'est Arnaud Lagardère qui a demandé, ne serait-ce que symboliquement, à garder un lien avec Jean-Pierre El Kabbach et ne pas... ils l'ont poussé vers la sortie, donc va-t'en,
mais pas complètement. Bruno Denet, votre analyse longue et fouillée de l'impossibilité médiatique de débattre à 7 a volé en éclats hier à 17h25. France 2 diffusait une première très attendue et vous avez été très emballé une fois n'est pas coutume.
Oui Sonia, j'ai vu, nouveau titre du célèbre zapping, le truc qui commençait comme ça lorsqu'il était sur Canal+. Et qui passe désormais sur France 2. Alors, hormis le générique, ce qui a changé, eh bien, c'est qu'en perdant son titre, le zapping a également perdu son... Eh oui, la neige a été remplacée par du silence, dites donc. Et puis ce qui a changé aussi, c'est que le tout nouveau Zapping parle désormais de lui à la première personne, car oui, pour célébrer son grand retour, le programme avait choisi hier de démarrer par un extrait de l'émission Motus qui disait ça.
Et je suis toujours là avec le plus grand des plaisirs. Vraiment, c'est sincère, il y a toujours du monde. Après tant d'années, ça c'est quand même assez incroyable, c'est génial. Soyez-en remerciés.
Voilà, c'est tout pour les changements, car ce qu'il faut surtout retenir, Sonia, c'est qu'en passant de Canal Plus à France 2, rien, absolument rien n'a changé dans l'esprit du programme. Le principe est toujours le même et le montage toujours aussi subtil, crée du sens et un éditorial dont la puissante ironie n'a rien perdu de sa férocité. Patrick Monet, qui en est l'auteur, a d'ailleurs dû bénir l'actualité et ses protagonistes qui lui ont offert ce week-end une occasion en or de tailler des croupières à sa bête noire favorite, Vincent Bolloré, l'homme qui a eu sa tête et celle du zapping et dont l'impétrant Arnaud Montebourg a eu la riche idée de parler au cours du débat des primaires retransmis, entre autres, sur iTélé.
Votre chaîne, Madame Ferrari, il y a même le propriétaire de votre chaîne qui est allé jusqu'à détruire son outil de travail pour empêcher le pluralisme.
Voilà, du coup, juste après ce passage, VU a enchaîné avec un court extrait du film Coup de tête dans lequel Patrick Devers disait
« Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. » Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle.
Clap, clap, clap. Montebourg, plus de verre pour régler ses comptes et donner son point de vue. C'est du grand art. Je me réjouis donc de ce retour tonitruant. D'autant plus, ma chère Sonia, que je m'apprêtais à vous refourguer un très long paplard pour vous dire ô combien j'avais été saisi par la réponse de Laurence Ferrari, qui a semblé oublier un peu vite que près de 80 de ses collègues ont quitté la chaîne sur laquelle elle officie.
Concernant la chaîne que vous évoquez, Télé, elle est là, elle est bien là, et je la représente ce soir, Monsieur Montebourg.
Mon œil, mais par la grâce de VU qui a choisi de coller à Laurence Ferrari ce savoureux commentaire tiré d'un documentaire consacré au courage des anguilles jardinières.
À la moindre alerte, elles disparaissent dans leur terrier.
Je n'ai strictement rien eu à faire, je dis donc merci et bravo à VU, à qui je ne souhaite qu'une seule chose, un horaire mieux exposé, mais... Mon petit doigt me dit que c'est déjà à l'étude.
Oui, c'est déjà sur France Info, la chaîne de télévision. Et sûrement après le JT de 20h la semaine prochaine. Marc-Olivier Fogel, commentaire, ou là aussi, tout est dit. Tout est vu et tout est dit.
Non, moi j'aime beaucoup Patrick Monet pour avoir travaillé avec lui pendant longtemps.
Vous êtes un ancien Canal+.
Oui, bien sûr. C'est pas, pour le coup, la ligne éditoriale du zapping, c'est lui qui la représente. Mais ça a été créé par Michel Denisot et Nicolas Plisson à l'époque. Moi, en revanche, contrairement à Bruno, j'espère que VU sur France 2 ne sera pas en permanence une succession.
Un lieu de règlement de compte
avec Canal, parce que on a compris, c'est bon, c'est fait, bien fait hier, mais alors j'espère, et il en a la capacité, on a produit des émissions ensemble avec Patrick et notamment une émission média sur Canal, que cette histoire-là qui est la sienne finalement, ne soit pas là tous les jours comme un truc qu'il aurait du mal à lâcher, je pense là aux téléspectateurs que nous sommes.
Mm-hmm. Voilà. Alors le téléspectateur que nous sommes a regardé le divan.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Je l'ai pas choisi hein, de me retrouver là où je me suis retrouvé, c'est-à-dire en ayant tout perdu. Parce que j'ai perdu... J'ai pris cher, en fait. Hein. J'ai l'impression de perdre tout. Mes responsabilités, mon honneur aussi. Peut-être même mon avenir.
Coup, Marc-Olivier Fogiel, pour lancer la saison dernière, Jean-François Copé choisit le divan pour son retour en politique. Équilibre des temps de parole oblige, point de politique sur le divan. Cette année, si vous aviez pu en choisir un seul,
Emmanuel Macron.
Lequel?
Emmanuel Macron.
C'est marrant.
Vous l'aviez imaginé?
Bruno Donnet m'a dit exactement la même chose. La vraie bonne chère à divan.
Ouais, ben il a une. J'ai vu le documentaire que France 3 lui avait consacré en prime time. C'était assez étonnant. Il y avait tout un aspect politique passionnant et puis tout un aspect personnel parce que je pense qu'il ne peut pas s'en départir parce que c'est son histoire que sur lequel on ne l'entend pas, mais sur lequel on entend sa femme Brigitte Macron parler. Et j'aimerais beaucoup l'entendre parler de ça parce que je pense que c'est il s'est constitué avec cette histoire-là et que ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il essaye d'incarner. Et le fruit de cette histoire, donc c'est pas l'intimité d'Emmanuel Macron qui m'intéresse, c'est cette part de lui-même qui, à mon avis, a un sens dans cette campagne.
Alors intimité, justement, depuis Copé sur votre divan, il y a eu un canapé à gros succès, celui de Karine Le Marchand, Ambition intime, où l'intime signifie désormais qu'il n'y a plus l'ombre d'une contradiction sur ce qui est raconté sur le canapé. Hein. On déroule le storytelling de sa vie sans être confronté aux faits, tout simplement. Ça vous a évoqué quoi, vous ?
que, bah, pour être franc, hein, quand j'ai vu le registre avant de voir l'émission, je me suis dit, c'est dommage parce que c'est un registre dans lequel je suis à peu près. J'espère que ça va pas brouiller ce que je fais, en fait. Hein. Mm-hmm. Et puis, j'ai regardé, j'ai vu que c'était complètement autre chose parce que là, on était dans l'intimité pure. Moi, j'essayais d'être dans la construction de la personnalité autour de valeurs. Et voilà, donc je me suis dit, ça va un peu brouiller ce que je fais parce que c'est un peu le même registre. Et puis finalement, ça s'est très vite différencié dans ce qu'elle fait. Moi, je saurais pas faire ça. J'aimerais pas faire ça. Et je trouve qu'en revanche, elle le fait plutôt pas mal, contrairement à toute la polémique qu'il y a eu autour de l'émission.
Mais c'est quand même voir un Nicolas Sarkozy très ému parler de Jacques Chirac, son père de substitution, sans que personne en face ne lui rappelle qu'il l'a trahi en politique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des candidats qui parlent pour ne rien dire, si ce n'est
Mais il faut pas prendre l'émission comme si elle était pas dans un contexte. Elle est ailleurs, justement.
Elle est ailleurs.
Elle est ailleurs et ça peut, voilà, il y a plein d'autres endroits qui permettent d'amener cette contradiction-là et ça constitue un tout. Donc moi, elle me dérange pas objectivement cette émission. Elle serait la seule émission, évidemment, dans la campagne. Mais il y a plein d'autres choses, plein d'autres endroits, et c'est un petit espace, voilà, que moi je n'aimerais pas du tout incarner. Mais je comprends que ça existe et il faut pas le prendre en tant que tel, comme si avec ça, il y a plein d'autres endroits où il est contredit, où on le met face à ses contradictions, où on vient d'ailleurs commenter Ambition Intime. Donc voilà quoi, c'est pas.
Alors, Copé, il est venu chez vous après le séisme de l'affaire Big Malion. Bernard Tapie viendra chez vous après l'effondrement de l'arbitrage qui lui a valu de récupérer 400 millions d'euros. On a envie d'entendre Tapie se psychanalyser sur comment il se brûle systématiquement les ailes, puisque c'est ça qu'il va raconter, comment il se brûle systématiquement les ailes.
Je sais pas ce qu'il va raconter.
Est-ce qu'on a envie de ça?
Ah bah moi oui, en tout cas vous peut-être.
Non mais c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas envie de savoir tout simplement pourquoi Nicolas Sarkozy lui a accordé cet arbitrage? Qu'est-ce qu'il lui doit? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'on a envie d'être Adam quand le scandale est aussi gros?
On va essayer également, évidemment, de parler de ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il vit les choses. Comme pourquoi il crie à des injustices quand il n'y en a pas forcément. Enfin, il y a des façons d'évoquer le contenu sans être dans des questions frontales. Que pour le coup, sur une autre radio où j'officie tous les soirs et où je fais du news, je suis amené, j'ai interviewé Tapie sur tous ces sujets-là un certain nombre de fois et j'y suis allé frontalement. Mais je pense qu'on peut aborder les mêmes questions sans être dans l'état d'âme, mais en
si autre, on est dans l'état d'âme d'une certaine manière, c'est-à-dire Jean-François Copé vous dit « j'ai souffert ». Oui, derrière, il y a les révélations sur l'affaire Big Malion sur France 2. Et quand on voit ça, on se demande si c'est très intéressant de savoir qu'il a souffert. Le résultat est là.
Il y a aussi la justice, pour le coup, sur Jean-François Copé. Et autant que je sache, il n'a pas été condamné. Non. Et donc, qu'il ait souffert de quelque chose qui lui a été reproché, pour lequel il n'a pas été condamné, je pense qu'il n'est pas dans un registre où on peut beaucoup en débattre de ça, pour le coup. Bernard Tapie, l'avenir le dira. En tout cas, je ne vais pas m'employer. Je ne vais pas être juste l'espèce de réceptacle de ces états d'âme sur le thème « Oh, votre vie est dramatique ». Je n'y vais pas dans cet état d'esprit-là. Oh là là, c'est terrible.
Mais pourquoi vous brûlez-vous tout le temps les ailes?
Non, je vais essayer de comprendre même sa façon d'être tout le temps à l'offensive, de provoquer. Il y a mille questions à lui poser qui ne sont pas forcément
dans
le côté pleurnichard.
Non, pas forcément pleurnichard. Justement, le récit de soi, trois saisons du divan, ça fait réfléchir aussi à l'essorage médiatique du récit de soi, à l'épuisement de l'exercice. Julien Clerc, votre premier invité.
J'ai quand même fait des émissions récentes où je me confiais quand même. Je me confie dans ce que je peux dire. Je suis plus un taiseux dans la vie que dans les émissions de télévision, je vous dirais.
Alors, quand on voit la liste de vos invités, Marc-Olivier Fogiel, instantanément leur vie, même quand on fait pas partie de leur fan club, mille fois répété à la radio, dans les magazines télé, etc., dans les magazines de presse écrite, nous revient en mémoire. On se dit, Michel Bernier, encore, Jean Dormesson, encore, Muriel Robin, encore, et là c'est reparti, Roselyne Bachelot, encore.
Et à chaque fois, c'est l'enjeu. C'est pour ça que l'enjeu, c'est d'essayer d'obtenir autre chose des invités, et c'est toute la difficulté. Et généralement,
parce que de Julien Clerc, on connaît beaucoup de choses.
Je crois sincèrement, et c'est pas de la promo que je fais là, même si je viens en faire évidemment, mais j'appréhendais beaucoup de recevoir Julien Clerc parce qu'il est assez économe dans ses émotions, assez économe dans sa façon de raconter les choses. On connaît son histoire, mais la façon dont lui la raconte, il est très très. On la raconte pour lui, et il me semble, vous verrez ce soir, que on découvre un Julien Clerc autrement. En tout cas, moi, j'ai découvert un Julien Clerc autrement, et c'est l'enjeu à chaque fois. Et je pense,
Alors, c'est vrai, très objectivement, je pense qu'il surgit des moments de vérité dans cette émission.
Je crois qu'à chaque fois, à travers les gens que vous énumérez, je crois qu'à chaque fois, il s'est passé quelque chose de différent, et c'est en ça que cette émission, pour moi, a de l'intérêt.
Cyril Hanouna parle de ses grands-mères. Larmes.
Je prends un petit verre d'eau. Non, c'est vrai que j'ai vécu des moments exceptionnel avec ma grand-mère. C'est vrai que c'était... Voilà, on regardait tout le temps la télé ensemble. On regardait tout, on était... C'est de là que m'est venue ma passion aussi pour la télé. Parce
c'est
que
ça.
Moi, je regardais les matchs de foot avec ma grand-mère. Elle était fan de foot.
Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau moment. Et j'ai très beau moment. Et j'ai trouvé que c'était une
vous
très
êtes
bonne
à quel degré, là,
émission. Non, c'est vrai. J'ai trouvé que c'était un très beau moment.
Ouais, mais moi,
vraiment.
Je crois que
et
voilà.
Pour le coup, c'est quelqu'un qui s'était pas raconté partout.
Je crois qu'on comprend
temps.
Le personnage qu'il et est à travers ce registre-là. Alors pas simplement. J'avais un peu initié dans l'interview ce qui ensuite s'est illustré le sentiment de surpuissance. On commençait à l'évoquer.
Et en même temps, ce sentiment de surpuissance, quand vous évoquez les 250 millions de contrats d'euros de contrat qu'il a avec Vivendi, etc., il change totalement de timbre, le Cyril Hanouna. Et il est d'une mauvaise foi totale. Et vous qui connaissez tellement bien ce secteur, la télévision, d'une certaine manière...
Mais regardez, c'est marrant ce que vous me dites, puisque vous dites qu'il est de mauvaise foi totale. Vous l'avez donc perçu, cette mauvaise foi.
Oui.
C'était un moment où vous avez bien vu qu'il n'était pas dans la même...
Voix change.
Bah oui, et donc l'émission, pour le coup, est efficace de mon point de vue, puisque moi, je ne suis pas là pour lui dire « mais tu mens, machin, etc. » Je suis là pour essayer d'être un révélateur sur différents aspects de la personnalité. Cet aspect de cette personnalité-là, quand il parle de sa surpuissance, de vous-même, vous notez qu'il ne vous a pas convaincu.
Alors,
c'est l'objet.
Le paradoxe, et c'est aussi un cliché du genre, c'est que vos invités qui se racontent partout sont tous très, très pudiques. C'est-à-dire qu'on a systématiquement le numéro de la délicatesse narcissique combiné à l'irrépressible besoin de s'exposer. Et c'est là où je me suis demandé si ce n'était pas une émission qui racontait sur tout ça, sur l'image qui est donnée de soi dans les médias, sur la réparation que ça constitue, sur la drogue du miroir, sur ses pièges. C'est le fil rouge, ça revient dans les deux saisons.
Ça revient souvent, mais je ne crois pas qu'il y ait que ça. Non, je ne crois pas qu'il y ait ça. Je pense que c'est un portrait, comme un documentaire peut le faire.
C'est le portrait de gens qui sont médiatisés et hautement médiatisés.
Pas toujours. Regardez, là, je vais faire par exemple Thomas Coville. On peut pas dire, il a été son exploit a été médiatisé. On connaît pas grand chose de lui. Non, je ne crois pas. Vous verrez Roselyne Bachelot. Mmh. Elle est extrêmement médiatisée. Ce que j'ai découvert de ce qu'elle raconte, où elle ne parle pas du tout de son intimité, on ne sait pas avec qui elle vit, etc. J'ai découvert une personnalité très très loin et de cette problématique-là, de pourquoi on s'expose, pourquoi on s'expose, est-ce qu'on est pudique, pas pudique. Je ne crois pas que ça soit le travers de l'émission.
Je ne parle pas d'un travers, je parle de quelque chose de récurrent, de quelque chose
dégage. C'est un des aspects de l'émission, mais ce n'est pas le seul, heureusement pour l'émission.
Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup cette question, qu'est-ce que j'ai représenté médiatiquement, qu'est-ce que je ne veux plus être, avec quoi je suis à l'aise, avec quoi je ne suis plus à l'aise.
Forcément qu'il y a de ça.
Ce qui est votre histoire à vous aussi, Marc-Olivier Fogiel.
Vous voulez dire que je me psychanalyse à la télévision depuis trois saisons?
Un peu, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on retrouve de vous, et moi je ne vous connais pas du tout dans la vie, qu'on retrouve de vous tel que vous vous êtes raconté.
Peut-être, très sincèrement, je pense que c'est un cliché.
cliché contre cliché.
Non, je crois pas maintenant. C'est votre interprétation, et franchement je la respecte, et elle n'est pas du tout dévalorisante, bien au contraire, mais je ne crois pas, en tout cas, pour dire les choses autrement, si c'est le cas, je n'en ai pas conscience.
Merci beaucoup, Merci le divan, Sonia. France 3, 23h15, c'est la fin de l'émission.